Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Maison, jardin, cuisine, brocante.
Avec Florence Cohen.
Sébastien Demorand, Thierry Denis, Laetitia Nallet et Glantine Émeillet, bonjour.
Bonjour
Florence. Bonjour Florence Cohen, j'insiste.
Mais vous avez raison, deux jours sur deux, ça me paraît parfait. D'ailleurs, on va commencer par vous, mon ami Sébastien.
Oui.
Laetitia va faire des bonds sur sa chaise puisque vous nous proposez un vrai plat mijoté facile sans se fouler. Alors moi, je veux voir.
Dis, Laetitia, du calme quand même, hein, on ne va pas se réjouir trop vite.
Sans se fouler.
Non, on va pas éviter le passage au marché, On va mettre la main sur deux, trois bricoles qu'on va glisser ensuite dans une cocotte et on va la laisser tranquille ou travailler au four. On va se préparer une petite cocotte de coco. Et faire rimer ça avec morteau. Tout simplement.
Mais elle est presque finie, la saison des haricots.
La saison quasi, Thierry. Il y a encore quelques cocos blancs, quelques cocos rouges frais, écossais, qui restent. Moi, j'en ai trouvé. Les rouges, là, par exemple, les borlottis, ça, c'est délicieux. Donc, on en profite une toute dernière fois. On se dit 2,5 kg à écossais. Ça prend 20 minutes, d'accord ? Au marché, chez monsieur le charcutier, on se prend une jolie saucisse de morteau, dans les 400 grammes à peu près. Pour 4 personnes, c'est nickel. Au marché, toujours en frais, une branche de céleri, quelques carottes, quelques oignons, de quoi faire un petit bouquet garni. Et le reste, vous l'avez à la maison dans les placards. Pareil. Un petit peu de concentré de tomate, un peu de chapelure, un petit cube de bouillon de volaille bio. Youpi. Ah, tiens, si vous pouvez, par contre, ça c'est important, trouver de la graisse de canard au marché ou chez le volailler. Ça c'est important.
Oh là 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 là, tout ce
qu'est-ce
qu'il y a,
faire,
là, c'est dingue.
Je vais plutôt acheter une choucroute toute prête, moi.
Non, ne me faites pas ce coup-là, Laetitia. Regardez, c'est hyper simple. L'oignon, le céleri, deux carottes comme ça, taillées en tout petits cubes, fastoche. Vous les faites fondre dans la cocotte avec un peu de graisse de canard, d'accord ? Mettez les haricots écossais, le bouquet garni, vous couvrez de flotte, vous glissez là-dedans le petit cube de bouillon de volaille.
Pas pour le moment,
on salera beaucoup plus tard. Et là, c'est terminé, quoi.
Qu'il ne faut pas prendre une cocotte trop grande.
Non, surtout pas, parce que, évidemment, une cocotte moyenne, on va dire, et Glantine, pour contenir, serrer comme ça les haricots et la morteau qu'on va ajouter plus tard. Il ne faut pas que ça se disperse, évidemment. Donc ça, vous allez cuire, Laetitia, à couvert, à feu plutôt doux, pendant 25 minutes. Mmh. Et là, au bout de 25 minutes, donc, vous ajoutez les dernières bricoles. Donc soit une cuillère à soupe de concentré de tomate, soit une demi-boîte de concassé de tomate, d'accord ? La morteau, évidemment, plongée, calée comme ça, au milieu des cocos. Mmh. Là, vous poivrez généreusement, Thierry.
D'accord.
Vous salez très légèrement, parce que la morteau est déjà bien assaisonnée, n'oubliez pas. Et ça, donc, rebelote au feu, à feu moyen.
On ne fait pas bouillir.
Non, jamais, Thierry. Ça doit juste frémir pendant 20 minutes.
Alors, c'est bien noté, mais j'ai sorti ma calculatrice.
De
on est à 3 quarts d'heure de cuisson, là. Quand est-ce qu'on mange ?
Eh bien, quelle est impatiente, celle-ci. Dans 20 minutes, allez, 20 minutes. Dernier passage au four. Non, mais regardez, c'est fastoche, il n'y a rien à faire. Thermostasis, la cocotte à découvert. Vous nappez toute la surface des cocos et de la morteau avec une bonne petite chapelure. Oh, et vous allez laisser gratiner pendant une vingtaine de minutes au four. Ça va croustiller un peu en surface. Le jus de cuisson va réduire gentiment comme ça. Et là, oui, c'est bon, Florence, c'est prêt. Vous la posez, la cocotte comme ça, paf, à table. Chacun se sert. Attendez, une demi-heure de préparation.
Non, ça va, honnêtement,
une heure de cuisson sans se fouler trop. C'est quand même jouable.
Oui, sans problème. Moi, je vais juste prendre les cocos en boîte, c'est plus
bon.
Je suis
désespérée.
Vous pouvez.
Oui.
Églantine, tiens, avec vous, on va faire la connaissance ce matin d'une restauratrice. Alors, bon, pas les copines de Sébastien,
on n'a pas dit ça.
Non, on va parler de livres anciens à restaurer.
Exactement.
Oh, je suis déçue.
Non, Sébastien. Souvent ici, je cite les nombreuses foires aux livres anciens. Je vous invite régulièrement à vous rendre à Bécherel. la cité du livre.
Oui.
Ces livres, on les aime, on aime bien leurs papiers, leurs illustrations. Et puis parfois, on hésite parce qu'ils ne sont pas toujours en bon état et du vieux papier, c'est vrai que c'est fragile.
Alors, ça signifie qu'il y a une solution.
Il y en a. La solution, là, elle s'appelle Dominique. Parmi d'autres, évidemment, elle n'est pas la seule restauratrice de livres anciens.
Mm-hmm.
Mais ce qu'elle fait avec son mari méritait que je vous en parle.
Oui.
Dominique, elle était d'abord responsable d'un centre socio-culturel. Alors, c'est vrai que les livres, elle aimait ça. Elle en côtoyait quand même déjà pas mal. Mm-hmm. Son mari, lui, était photographe. Eh bien, ils ont tout changé. Ils ont décidé un jour de faire de leur passion du papier des livres anciens leur profession.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, ils possèdent une entreprise familiale au sein du moulin de Quéréon, c'est dans le Finistère.
Oui.
Dominique, elle s'est spécialisée dans la reliure d'art, mais elle restaure aussi les livres anciens pour leur offrir une seconde vie.
C'est chouette.
Et Jean-Yves, lui, fabrique lui-même son papier, mais du papier artisanal à base de lin ou de chanvre, c'est typique du patrimoine breton.
Glantine, vous me faites rêver avec cette histoire.
Oui.
Alors, moi, j'ai deux livres anciens que j'aime beaucoup, mais ils sont pas mal abîmés. Elle pourrait faire quoi, Dominique ?
Alors, en fait, elle fait pas mal de choses. Elle peut faire disparaître les traces de mouillure, comme elle dit. Vous savez, des livres qui ont été abîmés par l'eau, par l'humidité.
Oui.
Elle peut rénover le cuir de la reliure, toujours en utilisant le même type de cuir que l'original. Elle peut réaliser des greffes de papier.
Des greffes de papier ?
Oui, tout à fait, sur un papier un petit peu déchiré. Et le livre, ensuite, il aura l'aspect d'un livre identique à l'ancien, teint, parce que évidemment les greffes rajoutées vont toujours être dans la même teinte avec ces années de vieillissement, tout ça sans les accidents du temps.
C'est fascinant.
C'est bluffant.
Et puis ce qu'elle fait avec les livres, elle peut le faire aussi pour les papiers anciens, pour les gravures ou même les aquarelles. Elle restaure et à chaque fois, le but c'est vraiment de préserver les caractéristiques d'origine en conservant les éléments existants, les cuirs, les papiers, les toiles. C'est magnifique.
Ah, mais c'est génial. Ah, mais oui. Alors quelquefois le livre ancien, il a carrément plus de cuir du tout.
Alors c'est vrai que ça arrive dans ce cas-là, elle peut pas faire des miracles non plus. Soit elle récupère un vieux cuir sur un livre ancien qui n'a pas beaucoup d'intérêt, et là elle va s'en servir, ou alors elle fait une simple couverture en carton. Dans ce cas, le livre ne pourra pas retrouver son aspect original, mais au moins il sera préservé, il ne pourra plus s'abîmer. Alors après, évidemment, un travail de cette qualité...
Ah, c'est... ça vaut cher, c'est ça,
c'est logique.
On y arrive.
C'est un coup,
voilà.
C'est normal.
C'est un coup. Moi, je tenais à en parler parce qu'il y a vraiment des livres qu'il faut préserver.
C'est vrai.
Alors, c'est vrai que là, on va vite vers les 100 euros, voire plus.
D'accord.
Il ne faut pas hésiter d'abord à demander un devis. Mais ça me semblait important quand même que vous sachiez que ça existe. En revanche... les livres que vous chinez, si vous n'avez pas les moyens de les restaurer comme ça, moi, la prochaine fois, je vous dirai comment les préserver au mieux.
Rendez-vous est pris, Glantine. En attendant, c'est fabuleux ce que vous nous avez raconté. On la trouve où, Dominique?
Au moulin de Quéréon, c'est à Saint-Sauveur.
Merci beaucoup, voilà qui est noté. Allez, on va se retrouver dans une petite seconde. Nous, on va faire rimer Lego avec déco.
Oui.
Si c'est possible.
Ah bon?
RTL Matin.
Maison, jardin, cuisine, brocante.
Avec Florence Cohen.
On poursuit donc avec vous, Laetitia, et on va retomber en enfance ce matin avec les briques Lego, les fameuses, vous savez, créées en 1950. Quel rapport avec la décoration
de vous savez que ces briques en plastique sont indémodables et aussi infatigables. Qu'elles ne se cassent pas.
Voilà. C'est vrai, on en trouve des bacs entiers dans les vide-greniers. C'est toujours en très bon état.
Ah bah moi, j'en ai plein à la maison. Et comme mes filles sont grandies et qu'ils s'en soucient plus,
qu'est-ce qu'on fait, Lego?
Je vais leur piquer et fabriquer des objets déco.
Alors, j'ai entendu, voilà, déco Lego, mais je demande à voir. Quoi.
Bah oui, j'ai un livre avec des recettes, mon cher Sébastien. 60 recettes qui s'appelle le livre Réinventer Lego d'Isabelle Bruno et Christine Baillet. C'est aux éditions Web. Enfin, je pense que ça se prononce comme ça. C'est assez incroyable ce bouquin parce qu'on peut réaliser facilement des choses utiles et stylées. Alors, premier exemple, on prend juste une seule petite brique de Lego.
D'accord.
Et on va la transformer en magnète. Sous la brique, vous collez un aimant. Puis ensuite, vous la passez avec une peinture en aérosol, par exemple un gris métallisé.
Ah, c'est marrant,
et zou, la brique aimantée sur le réfrigérateur pour accrocher des photos.
C'est bien ça.
Hein.
Non, c'est très marrant.
On peut aussi utiliser les briques pour écrire un mot sur un mur. Ça, c'est assez chouette.
Ça rend bien. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire tenir...
Alors avec des petits clous, en fait avec votre ordi d'abord vous imprimez vos lettres séparément sur des feuilles A4 comme un patron de couture, puis vous assemblez vos briques et ensuite vous l'accrochez au mur.
C'est très mignon, je trouve, c'est très joli, c'est mignon.
Allez, encore une autre idée pour décorer une étagère.
Comment vous avez fait?
Alors, regardez la photo.
Regardez ce qu'on fait.
En fait,
vous mettez juste des briques sur les tranches de l'étagère et vous allez les coller avec de l'adhésif double face, c'est super simple.
Ça prend 8 ans
Mais non, ça c'est pas très long à faire.
C'est plutôt pour les enfants.
En revanche, j'ai plus long si vous voulez.
Allez, je prends.
C'est un cabinet d'architectes et de design qui s'appelle ABGC Design, qui s'est amusé à réaliser une table. Alors là, il y a eu 200 heures de travail sur 4 jours et à plusieurs. Ils ont disposé 22 742 pixels en touches de couleurs sagement alignées. Et ensuite, ils ont recouvert la table avec une plaque de verre.
Regardez la photo.
C'est extraordinaire.
C'est super beau.
C'est un travail de titan quand même.
C'est génial, c'est super beau. Bon, vous, chez vous, vous pouvez faire plus simple, par exemple, avec un meuble. Un meuble bas, vous savez, avec des tiroirs.
Oui.
Bah, sur le dessus, vous allez coller des plaques de Lego vertes. Donc, le plateau du meuble, il va être gai et coloré. Et en plus, votre enfant, il pourra faire des petites.
C'est la plaque de Lego qui fait les gazons, normalement.
Oui, c'est ça. Et il pourra jouer avec le dessus du meuble. Ensuite, vous peignez les tiroirs en couleur, puis vous faites des poignées personnalisées avec les petites briques.
C'est plutôt sympa, les plaques vertes sur le dessus.
Les plaques vertes, ils l'ont mis aussi sur un mur. Alors, ces plaques vertes, elles font quoi? Elles font 30 par 30. Vous allez les coller soit directement sur le mur, avec de la colle silicone, soit sur un panneau de contreplaqué que vous visserez ensuite au mur. Et franchement, mais ça rend super bien.
Mais attends, je faisais le mariole au début.
Non, mais j'y croyais pas, mais c'est
vous
très, très joli.
Mais c'est spectaculaire ce qu'on voit dans ce bouquin.
En plus, dans ce livre, vous verrez des plans de travail, des murs entiers en Lego, un sapin de Noël réalisé avec 1486 pièces. Il y en a même un qui, écoutez ça, il a décoré le fond de son aquarium en reproduisant l'univers de Mario Kart.
Non, mais regardez, c'est incroyable.
C'est trop rigolo. Et enfin, dernière astuce, la brique Lego peut aussi servir de tampon impression pour décorer des vêtements ou des
nappe, on la trempe un peu dans la peinture comme ça. On met sur le
Lego, c'est super. Allez-y.
Je veux. Ça s'appelle comment le bouquin?
Alors le
dit
bouquin s'appelle Réinventer Lego aux éditions Webeck. On va prononcer comme ça. 19,90€.
Il faut mettre les photos sur internet.
Absolument. C'est absolument génial. Thierry, à vous une question pratique à laquelle peuvent être confrontés certains de nos jardiniers auditeurs. Mm-hmm. Les tiges des plantes vivaces rustiques sèchent souvent à la fin du mois d'octobre. Est-ce qu'il faut les tailler?
Vaste question. Vaste question qui ronge, c'est vrai, bien des jardiniers qui nous écoutent. Oui. On leur a seriné qu'il fallait couper les tiges des vivaces vite pour que la souche donne de nouvelles pousses l'année d'après. Bon, mais ça fait quand même parfois un peu mal au cœur de tailler.
Moi j'aime pas trop prendre mon sécateur.
Sébastien.
C'est rude.
Raser tout, ça fait méchant, c'est brutal. Alors, je vous rassure, on n'est pas obligé de tout hacher menu. En tout cas, pas tout de suite. Déjà, vous avez toutes les plantes vivaces qui gardent un feuillage bien vivant en hiver. Des giroflées, des euphorbes, des corbeilles d'argent. Oui. Elles sont top et jolies. Bah, donc on va leur fiche la paix, on ne va pas les couper.
Et les autres vivaces, alors celles qui dessèchent complètement, là, on les coupe?
Alors en principe, oui Laetitia, parce qu'il faut bien enlever un jour les tiges mortes qui gêneront celles qui sortiront au printemps. Mais ne soyons pas pressés de le faire, parce que pour bien des plantes, à mon avis, il va être urgent d'attendre.
Ah, urgent d'attendre, et pourquoi donc?
Eh bien parce que même après avoir été desséchées par l'automne, elles peuvent être plutôt sympas en hiver. Sébastien, il suffit d'une belle journée froide et ensoleillée pour s'en rendre compte. Ceux qui ont coupé tout dès maintenant, ils se privent de très bonnes surprises en décembre.
Oui, parce qu'un aster fané mais ourlé de gel, c'est très joli.
Bien vu, Églantine, bien
vu. C'est ravissant, oui.
De même, les fleurs fanées des anémones du Japon donnent à Noël d'adorables petites boules de coton bourrées de graines.
Mais celles des cardères font le bonheur des bouvreuils.
Ils les picorent. Voilà. Donc, toutes ces plantes qui restent belles en hiver, eh bien, on va attendre février pour les couper, juste avant le retour du printemps.
Bon. Okay.
Et toutes ces vivaces fanées sont top?
Non,
peut-être pas non plus,
non,
on peut pas abuser.
Il y en a quand même qui, après le moindre gel, ben, elles deviennent assez moches. Bon, delphinium, c'est hideux. Bon, alors, soyons pragmatiques. On va résumer mon petit baratin. Après le gel, tout ce qui est beau, je le garde. Ce qui est moche, je le
coupe. Voilà, c'est assez simple. Voilà.
Même, j'ai compris. Et alors, donc, justement, ce qui est moche, je coupe où, Thierry? À ras du sol ou un peu plus haut?
Alors, Sébastien, ça dépend bien sûr des plantes.
Oui.
Mais là encore, c'est une question de pur bon sens. Après ce fameux gel qui ratatine, bon, il y a des vivaces qui sont moches de la tête aux pieds.
Ouais. D'accord.
Donc, on coupe au plus bas. Ouais. Ras de terre, pourquoi pas? Mais il y a d'autres vivaces, comme les goras, les lobélias, les héléniums, qui font dès maintenant, dès novembre, des petites pousses bien vertes en dessous des vieilles tiges qui meurent.
Donc celle-là, on coupe pas tout, on coupe juste le dessus, ce qui est fané.
Florence, vous avez tout compris, vous êtes une parfaite jardinière.
Oh là là, si j'avais su.
Eh oui.
S'entendre dire ça,
ça sommeillait en vous, Florence.
Oui, c'est ça, c'est révélé maintenant.
Tout le monde est au courant.
Merci à tous les quatre, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.